Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvesan, journaliste AEF Info, et je suis en compagnie aujourd'hui de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, pour interviewer le primus inter pares des business schools françaises. Bientôt peut-être pourra-t-on même dire le parrain, je suis sûre que ça va vous plaire. Puisqu'en 2025, il fêtera ses 50 ans, l'âge de la sagesse. Et Loïc Perrache, directeur général d'HEC Paris, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Et Loïc, je le disais, vous êtes encore un jeune parrain dans le milieu, mais en tant que DG d'HEC, c'est un peu le rôle naturel qui vous incombe. D'autant plus que vous avez vous-même grandi, entre guillemets, dans l'ombre d'un vrai parrain dans les décennies 2000 et 2010, Bernard Ramanantsou, patron emblématique d'HEC pendant 20 ans, bien connu du reste du Grand Oral puisqu'il nous fait l'amitié de co-animer ce podcast de temps en temps, et on l'embrasse s'il nous écoute. C'est donc lui qui vous a embauché en 2003 en tant que professeur d'économie à HEC, après votre doctorat obtenu à Toulouse School of Economics, TSE. Très vite, vous prenez du galon, directeur académique du programme SEMS dès 2006, directeur délégué d'HEC en charge du programme Grande École en 2009, puis directeur délégué en charge de tous les programmes un an après, et enfin directeur général depuis 2021, date à laquelle vous succédez au Canadien Peter Todd. Votre premier mandat vient d'ailleurs de s'achever, vous venez tout juste, je crois, d'être reconduit pour un deuxième mandat de 4 ans, c'est ça, jusqu'en 2028 ?
Exactement.
Et Loïc, je l'ai dit, vous avez travaillé en grande proximité avec deux directeurs généraux d'HEC successifs, deux personnalités très différentes. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous avez appris de l'un et de l'autre et qui vous aide encore aujourd'hui à assumer vos fonctions de dirigeant ? Est-ce qu'il y a une ou deux grandes leçons que vous retenez d'eux ?
Ah, forcément, ils ont joué un rôle important. J'étais un bébé, on me dit que je suis jeune aujourd'hui, donc j'étais un bébé au moment où j'ai commencé avec, Bernard. Et c'est vrai qu'on a eu... on était très proches, pas toujours d'accord forcément, mais énormément d'écoute, énormément de temps passé ensemble, et donc j'ai forcément beaucoup emmagasiné d'expérience avec lui. Il avait une histoire à HEC très longue, et donc ça m'a, effectivement, ça m'a donné envie de continuer. J'ai vraiment pris goût à cette partie-là du métier avec lui. Et Peter, il avait une position qui était, alors, il se définissait lui comme servant leader. Enfin, c'est un mouvement de leadership important. Et donc, il a beaucoup plus que Bernard Ramanantsou. Il déléguait, il avait tendance à responsabiliser beaucoup. Il y a plein de choses qu'il ne savait pas dans son institution. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien à l'institution aussi d'avoir un autre mode de leadership. Et j'ai, moi, beaucoup appris de lui là-dessus.
Donc, complémentaire finalement pour vous.
Très complémentaire.
Votre deuxième prénom, c'est Anil, ou plus exactement, vous avez un prénom composé, Eloïc Anil. Et je le dis parce que ce prénom a une histoire. Vous êtes né à Bombay, en Inde. Votre père était diplomate. Et puis, vous avez grandi au Japon entre vos 8 ans et vos 15 ans. Et vous parlez d'ailleurs aussi bien l'anglais que le français. Et je crois même que vous maîtrisez le japonais. Et pendant vos études à l'UNS Cachan, devenu depuis Paris-Saclay, puis à TSE, vous avez séjourné à Chicago et puis à Barcelone. Autant dire que vous avez un profil très international. Mais ce qui est assez surprenant dans votre parcours, c'est que dès que vous arrivez à HEC en 2003, ben vous n'en bougez plus. Vous faites preuve d'une remarquable stabilité, voire fidélité à l'institution de Jouy-en-Josas. Comment vous expliquez ce contraste avec ces 20-25 premières années de votre vie et les suivantes ? Et est-ce que vous ne regrettez pas des fois de ne pas avoir eu d'autres expériences professionnelles en dehors d'HEC ?
Alors pour partir sur la dernière question, non, je ne le regrette pas. Une aventure extraordinaire à HEC et effectivement des fonctions très diverses. Je pense que si j'y suis encore et si je continue, c'est que je m'amuse beaucoup et j'y trouve énormément de sens.
Qu'est-ce qui vous attache à cette institution en particulier ?
C'est une marque formidable et c'est une institution... aujourd'hui, j'ai... la main sur un certain nombre de décisions, mais que je trouve extrêmement engagée et généreuse. Donc la question du sens est pour moi très, très importante. Je pense qu'il y a une vraie capacité à changer des destins assez massivement au sein de cette institution. Le regret que j'ai, c'est pas de ne pas avoir bougé. C'est-à-dire que HEC, c'est un forum mondial. Vous avez 135 nationalités sur le campus, vous avez des étudiants du monde entier. Et donc, moi, je m'y retrouve bien.
Le monde vient à vous.
Parce que voilà, on a décidé de faire venir le monde sur le campus. Et vous l'avez dit, je pense que c'est un engagement très fort que moi j'ai eu depuis 2009. C'est-à-dire que vous aviez 80 étudiants étrangers à la grande école, tous les masters étaient en français en 2009. Aujourd'hui, ouais, ils sont 300 à la grande école, ils sont 80% des gens du monde entier dans les masters. Donc on en a fait un forum mondial et c'est plein de choses qu'on peut améliorer à HEC, mais en tout cas, c'est une très belle réussite, cette internationalisation. Et donc c'était plutôt pour mes enfants, c'est-à-dire que voilà, régulièrement je me disais... moi j'ai eu cette chance, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et ça a été extraordinaire, cette expérience-là. Je me souviens moins de l'Inde, parce que je suis rentré, j'avais 3 ans, mais je parlais pas français quand je suis rentré en France. Le Japon, c'est une période extrêmement importante de ma vie.
Ceinture noire de judo.
Ouais, ceinture noire de judo, effectivement. Enfin, voilà, j'ai été dans les codes du Japon assez fortement. Et voilà, et je me suis dit, mes enfants sont nés en France et voilà, ont grandi en France. Maintenant, partent à l'étranger et puis ils auront toutes les occasions du monde de pouvoir avoir des interactions fortes avec le reste du monde. Donc,
Parlons un peu de sous et de modèle économique. On sait que la situation économique de beaucoup d'écoles françaises de management est difficile en ce moment, entre des frais de scolarité qui ont atteint des niveaux très élevés et des dépenses de l'autre côté de personnel, de fonctionnement, d'immobilier, de systèmes d'information, de promotion qui sont plus grandes. Une démographie, alors même si ce n'est pas pour tout de suite, qui est en baisse dans les pays européens. Quel est votre sentiment sur ces grands mouvements et le modèle économique sous-jacent des écoles?
Alors, vous avez eu... pour un certain nombre d'écoles, hein, quelques années, des engagements des chambres de commerce. Et à un moment où, comme vous le dites, hein, il y a eu besoin d'investissement, parfois dans de la technologie, un campus, dans une marque internationale. Donc vous avez deux effets. Et forcément, quand vous êtes dans cette situation-là, il n'y a pas 150 000 situations, pas 150 000 solutions. Pas. Les frais de scolarité, vous en parlez. Alors... je ne sais pas où se situent les sommets, mais c'est intéressant de regarder ça. C'est-à-dire que la presse en parle souvent, on aime donner le pourcentage d'augmentation des frais de scolarité. On oublie souvent l'autre partie, pour les écoles, hein, qui est que y avait effectivement une subvention importante pour certaines des écoles, les chambres de commerce, et qu'elle n'existe plus. Je prends le cas d'HEC. En 2009, les frais de scolarité devaient être à peu près à 10 000 euros. Et il y avait à peu près 10 000 euros de subvention par élève de la Chambre de commerce. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de subvention de la Chambre de commerce. Les frais de scolarité sont à peu près au niveau, finalement, fictif de ce qu'ils étaient en 2009. Donc en termes de rentrée financière pour les écoles et pour financer leur développement, c'est effectivement un élément de difficulté. Moi, je suis assez admiratif de voir... l'énergie, la créativité, l'engagement des écoles de commerce, de manière générale. Je pense qu'elles sont animées par un sentiment de concurrence, on va dire de coopétition, hein, donc beaucoup de coopération, mais de concurrence internationale. Et donc, il y a plein de choses différentes. Vous avez l'EDEC avec Scientific Beta qui revend un centre. Vous avez Neoma qui acquiert une école pour faire de la formation continue. Moi, j'ai toujours été admiratif de Francis Bécard à l'ESC3 qui faisait des choses, je trouvais absolument formidables, de diversification du groupe. Donc, on va avoir besoin voilà, de beaucoup de créativité et de diversification. Et donc, s'il y a moins de jeunes, il y aura sans doute plus de formation continue. Donc, les gens, un certain nombre d'écoles investissent dans la formation continue. L'entrepreneuriat est un élément important. Donc, voilà, les groupes bougent. Et effectivement, je pense que le monde un peu académique ne ressemblera pas vraiment à ce qu'il est dans quelques temps.
Avant de venir sur la situation spécifique de HEC, vous parlez de formation continue, d'executive education. Dans votre modèle économique, ça tient une place importante et est-ce qu'elle a évolué au cours de la période récente?
Alors, ça fait longtemps que ça tient une place importante et ça va continuer encore plus à tenir une place importante. On n'a jamais eu autant besoin de se former tout au long de sa vie. Alors après, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va se former tout au long de la vie? Quelle va être la place du digital? Quelle va être la place du face-à-face? Et puis peut-être un peu le mélange des deux. Donc c'est ça la question. Mais quand vous regardez un peu l'obsolescence des compétences, elles s'accélèrent. Donc c'est effectivement un
outil important. Les entreprises et, ou les étudiants sont prêts à payer pour ça et à payer un prix de marché?
Alors, les étudiants, il y a deux choses. Il y a les entreprises qui peuvent former. Bon. Bah, disons que, si vous parlez d'HEC, on ne forme pas des stagiaires en formation continue, mais vous avez à la fois des gens qui ont besoin de se former. L'idée, c'est qu'ils vont sans doute étaler un peu leur formation. Ils vont se former tout au long de leur vie, ils vont accumuler. Aujourd'hui, HEC, vous avez une capacité à capitaliser des crédits pendant toute partie de votre vie. Et puis, vous avez les entreprises qui investissent dans la formation de leurs salariés. Donc, est-ce qu'il y a une demande? Oui, il y a une demande réelle.
Et solvable?
Ah ben, pour les écoles, en tout cas, nous, on a plutôt tendance à subventionner la formation première et essayer de compenser sur la formation continue.
Alors, venons sur le modèle économique général d'HEC. Je m'étais penché sur vos comptes 2022 qui montaient une légère perte, mais en même temps une trésorerie très confortable, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème pour les fins de mois. J'avais noté 61 millions d'euros, donc ça permet de voir venir. Qu'en est-il aujourd'hui de cette situation financière?
Alors, la perte que vous évoquez, c'est une perte comptable. Hein. Donc, il y a...
2 millions d'euros à peu près.
Voilà. Et une perte comptable parce qu'une partie de la... On va appeler ça comme ça, du transfert de la fondation, en tout cas, vient en augmentation de capital. Et donc,
ça, c'est nouveau.
Ça fait quelques années maintenant. Mais ça fait quelques années que effectivement, la fondation a une part un peu plus importante au capital.
C'est-à-dire qu'en fait, elle vous donne de l'argent dans votre compte d'exploitation tous les ans, à peu près 8 millions d'euros, c'est ça qui a été dit lors de la soirée de la campagne.
Ouais, aujourd'hui, c'est plus, oui.
Plus que 8 millions d'euros dans vos comptes directs et une partie au capital.
Ah, c'est ça, exactement. Et donc c'est une combinaison des deux. Et donc, ça vous montre... Un rappel, hein, parce que vous dites on est un peu moins de 2 millions là, ça peut être plus 1 million une autre année, etc. On est une institution à but non lucratif. Et donc, c'est pas une institution qui gagne beaucoup d'argent ou met énormément d'argent en réserve. L'idée, c'est qu'on réinvestit massivement l'argent qu'on gagne au travers des programmes ou qui peut être amené par la fondation au service de la mission de l'école. Et donc voilà, donc on est toujours à peu près autour de l'équilibre.
D'accord. Vous avez récemment dévoilé les résultats de votre campagne de levée de fonds au sein de la Fondation avec une vraie réussite, 213 millions d'euros levés. On l'évoquait, une partie de cet argent sert à financer l'école. Qu'est-ce que ça change pour HEC en termes d'équation financière et en termes d'évolution des équilibres de pouvoir, puisque ce qui dit augmentation de capital dit modification de la répartition du capital?
Alors, il faut avoir en tête que l'objectif de la fondation, ce n'est pas de financer l'exploitation de l'école. On doit être autonome. Enfin, c'est intéressant, hein, depuis 2016 et le nouveau statut d'HEC, il y a une phase d'autonomie administrative. On a dû avoir une direction des ressources humaines, une direction juridique. Puis, il y a eu une phase d'autonomie d'exploitation. Et on entre dans une nouvelle phase, qui est un vrai défi, qui est d'autonomie d'investissement. Parce qu'il va falloir réinvestir sur le campus. Le rôle de la fondation, c'est vraiment une mission d'impact importante. Elle vient financer la recherche, vient financer l'égalité des chances, et puis peut-être un certain nombre d'investissements qu'on va être amené à faire sur le campus. Donc c'est vital pour l'école aujourd'hui de faire appel à... Alors, généralité d'un certain nombre d'anciens. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ne sont pas diplômées de l'école, qui sont donateurs à HEC. En tout cas, c'était très important.
Il y a eu une évolution des donateurs dans le temps de la Fondation ou ça reste à peu près toujours les mêmes profils et le même type de montants qui sont donnés?
Non, alors, vous avez des nouveaux donateurs régulièrement. Nous, on a un défi, c'est d'avoir plus de donateurs. Quand vous regardez la communauté des anciens, des diplômés, qui fait 70 000 diplômés, peut augmenter la proportion de celles et ceux qui sont donateurs. Moi, je pense que tout HEC devrait être à minima un petit peu donateur. Mais parce que, non pas parce que, allez, t'es un ancien de l'école, il faut redonner à ton école. Je pense que parce que l'institution a, je pense, vraiment un rôle important à jouer et une raison d'être très engagée sur faire partie de la solution au sein de la société. Donc, je pense que aider une école comme HEC et aider les écoles de manière générale, c'est important. Donc la fondation, elle joue ce rôle-là. Et à nous de gérer le financement neutre. Alors après, il y a les montants qui sont aujourd'hui donnés sont effectivement plus importants que ceux qu'on avait il y a un certain nombre d'années, ce qui explique une partie de la réussite de la campagne. Vous avez aussi un peu plus des non-HEC, donc les ressorts, c'est pas je veux redonner à mon école, mais c'est je pense que vous êtes une institution importante dans le paysage et que vous avez un rôle important à jouer. Et puis, on a aujourd'hui un petit peu plus de fonds publics, un petit peu plus de fonds publics sur des enjeux de recherche. Et là, je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire que on lit parfois dans des journaux qu'on fait de la recherche pour, je sais pas, pour les classements, pour... Enfin, foutaise. Enfin, je veux dire, la recherche, c'est extrêmement important. Je veux dire, ces enjeux de compréhension du monde, d'analyse d'un certain nombre de solutions, c'est absolument, je pense, vital pour une économie. Et en plus, la recherche, le problème dans le modèle économique, c'est la recherche, c'est un bien public. D'accord ? Donc, on la diffuse gratuitement et puis tout le monde peut y avoir accès. Et donc, on a eu la chance récemment d'avoir un peu plus de soutien de l'État français dans le cadre d'un centre sur un sujet dont on reparlera peut-être, de soutien à la recherche.
Sur l'IA, oui, on en parle.
Et ça, c'est un sujet important. C'est-à-dire, comment est-ce que, dans les écoles, on peut financer la recherche ? Vous parliez du modèle économique tout à l'heure. Il y a une façon assez simple de baisser ses coûts, c'est de moins investir en recherche.
Ça ne fait pas partie des intentions des chaussées.
Et ça ne fait pas du tout partie des intentions de la chaussée, bien au contraire. Mais il faut arriver à accompagner ce mouvement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions importantes. Et c'est ça qui est fascinant à HEC, c'est-à-dire que vous avez des recherches extrêmement diverses. On travaille à la fois sur les migrations, sur la pauvreté, sur les biais des algorithmes, sur les enjeux de finance, de blockchain, etc. Donc, c'est un apport extrêmement significatif à la société dans son ensemble pour demain prendre des meilleures décisions.
Venons-en aussi à un autre aspect qui est plutôt un aspect de programme, et en particulier les bachelors, puisque ça a été fort développé, notamment par vos écoles sœurs, l'ESSEC... Le SCP, je crois que maintenant le SCP, c'est 3000 élèves, dont 1140 entrants cette année. Vous-même, après avoir longtemps reculé devant ce type d'entrée, avec Bocconi, vous êtes rentré sur ce secteur. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quels sont vos objectifs en la matière, et en particulier, peut-être pas tant sur le fond de la formation, mais sur le développement, puisque je crois me souvenir que le SCP, quand elle a créé, ça devait rester relativement marginal dans le fonctionnement de l'école.
Sur le bachelor, on pourrait effectivement consacrer une émission entière. Et comme vous dites, on a passé beaucoup de temps à y réfléchir. Bon, quand on regarde le paysage, ça fait longtemps que les écoles ont des bachelors. La prépa et la première année de l'école, c'était de facto un bachelor. Et je pense que, et vous dites, on ne va pas insister sur le fond, moi je voudrais insister sur le fond. On a une position assez arrêtée à HEC, qu'en bachelor, il est très important, et c'est la beauté du projet intellectuel porté par les classes préparatoires et la réussite des classes préparatoires. On adore dire à quel point on travaille beaucoup, c'est vraiment très difficile la classe préparatoire, mais le projet intellectuel porté au sein de la classe préparatoire, il est fascinant, extrêmement intéressant. Il y a très peu de programmes, même dans le monde, où vous faites à la fois des mathématiques, de l'économie, de la philosophie, des lettres, des langues, etc.
Oui, mais il attire moins.
C'est pas vrai. D'accord, je vous redonnerai un peu des chiffres, je peux me donner en deux secondes, mais c'est pas vrai. Et sérieusement, arrêtons ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de candidats aujourd'hui qu'en 2009. Moi, je suis arrivé en 2009 à Grande École. Donc, c'est monté très haut jusqu'en 2021 et ça a rebaissé un peu depuis 2021.
Si c'était très attractif, Loïc, toutes les écoles n'auraient pas eu à créer des bachelors à côté de leur programme Grande École.
Ben, ça dépend. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider que... C'est un des sujets. Vous pouvez très bien décider que vous voulez... un certain niveau de sélection, niveau d'élèves un peu à tous les étages, et que ben, si vous continuez à massifier votre programme, peut-être que ça a des conséquences sur les profils des élèves que vous retenez, et donc vous voulez rentrer dans un autre segment de marché. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Les écoles ont plus recruté qu'avant, issues de classe préparatoire, et en tout cas, nous, à HEC, on n'a jamais eu autant de candidats au concours qu'aujourd'hui. Jamais, de l'histoire de l'école. Il y a un petit peu moins d'autocensure qu'avant, mais il n'y en a jamais eu autant de candidats. Donc, pour revenir sur le bachelor, donc ça existait. En fait, on a mutualisé les écoles, le premier étage, et la position d'HEC, c'est une position forte, enfin d'excellence à tous les étages qu'on a au sein de l'école. Tous les programmes doivent porter la marque. On doit avoir un niveau d'excellence global. Et il y a un deuxième critère. Vous m'avez interrogé dessus au tout début. C'est l'internationalisation. Et donc c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on va recruter mondialement, comment on amène le monde entier sur notre campus à tous les étages. Et donc, peut-être pour faire simple, le bachelor, c'était le programme, un vrai programme d'excellence, quand il était attaché à la classe préparatoire, et qui était très franco-français. Et donc, une façon pour nous d'internationaliser ce segment-là aussi, d'amener plus d'étudiants internationaux sur le campus, c'était de se dire, OK, on va essayer, on va lancer un programme qui va massivement recruter à l'international.
Ça, c'est sur le plan académique et pédagogique. Mais sur le plan économique, est-ce que vous voulez faire de ce programme un des piliers de votre modèle demain ?
Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, donc on ne va pas insulter l'avenir, mais cette année, on a recruté 70 élèves, 27 nationalités, sur un programme, une fois plus, très en ligne avec les classes préparatoires, donc très autour des arts libéraux. Je pense que c'est très important, quand vous passez le bac, de commencer par étudier plutôt les arts libéraux et puis laisser la partie business management au niveau master. On va augmenter un petit peu. On augmentera un petit peu.
Un petit peu, ça veut dire quoi? Jusqu'à 150, 200 par promo?
Sans doute. Un horizon de 5 ans, on sera sans doute à ce niveau-là. Et on continuera à recruter des étudiants, effectivement, du monde entier. La troisième nationalité dans le bachelor là, qu'on a ouvert, ce sont des Américains. Étonnant, parce qu'on a assez rarement des Américains dans nos écoles. Donc c'est aussi une façon pour nous d'aller toucher une population talentueuse, peut-être de zones dans lesquelles on avait moins d'élèves. Donc oui, c'est un chiffre, je pense, à peu près envisageable pour 2030.
Avec des frais de SCO d'à peu près 20 000 euros, c'est ça, par an?
Oui, c'est 25, je crois.
25. Parlons encore un petit peu d'avenir. On a évoqué de grands travaux que vous alliez faire sur le campus d'HEC là, dans les prochaines années. C'est un campus qui date de 1964, qui a besoin un peu d'un lifting, sans compter la reconstruction de l'amphi Blondeau, qui a été détruit par un incendie l'année dernière. Quelle est l'ampleur exacte de cette rénovation et comment comptez-vous la financer surtout?
Alors, elle est très importante et c'est un moment un peu historique pour nous. On ne refait pas un campus tous les ans, hein, donc vous l'avez dit, c'est 64 et donc là, c'est penser le campus des 50 prochaines années. Ça crée des défis, hein, de penser comment est-ce qu'on va enseigner dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a un petit peu de rénovation, mais il y a aussi de la construction sur le campus. Les différentes phases, ou en tout cas les différentes parties du projet. Il y a, pour celles et ceux qui connaissent le campus, en bas du campus, un château où on fait aujourd'hui de la formation continue, magnifique objet du patrimoine local. Et puis, il y a juste derrière le château, les communs du château. Alors, en ruine, mais sublime. Derrière, vraiment, des bâtiments qui qu'on va pouvoir restaurer demain et qui vont être au cœur de notre projet en termes de formation continue. Okay? Donc, l'idée, c'est que le château et les communs deviennent un lieu, un hub de... Un joyau de formation continue avec, effectivement, des comex, des dirigeants qui viendront sur le campus passer 3, 4, 5 jours à se former sur des sujets pour avoir des off-site, comme on le dit en bon français, de certains nombres de comités de direction. Mais l'idée, c'est que vraiment, on est un lieu d'intelligence, de partage, dédié à la formation continue. Et le château deviendra entièrement un hôtel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 35 ou 40 chambres. Demain, les bureaux seront transformés en chambres. Donc, il y aura à peu près 80 chambres et une capacité d'accueil importante. Et ça rejoint ce qu'on se disait au tout début, l'importance de la formation continue et de la formation tout au long de la vie. Et donc, ça méritait d'avoir un lieu dédié aux standards souvent attendus par cette population. Après, il y a le haut du campus. Et c'était très intéressant parce qu'on a fait, il y a quelques années, un master plan, on appelle ça comme ça. Donc, Villemotte était venu sur le campus pour faire cela. C'était sa mission. Très intéressant de voir comment les architectes réfléchissent et regardent un lieu. Et très vite, il est arrivé à la conclusion qu'il manquait une centralité sur ce campus. Vous avez la bibliothèque qui est une partie du campus, vous avez le restaurant universitaire qui est à l'autre bout du campus. Le campus est sublime, magnifique, beaucoup de nature, mais il manquait une centralité. Et quand notre projet, c'est de créer des ponts et pas de créer des digues, c'est de faire venir le monde entier, il faut avoir des lieux où tout le monde va se retrouver. Les professeurs, les salariés, les étudiants du monde entier qui travaillent dans des lieux communs, qui partagent des moments. Et donc, on va créer un bâtiment central, appelons-la comme on veut, mais en tout cas un bâtiment central où il y aura des lieux de restauration, et des lieux de partage, des lieux de co-création. Il y a énormément de création d'entreprises aujourd'hui. Les idées, elles naissent parfois à un café, parfois à une discussion. Et donc ça, c'est nouveau. Et ça va être assez significatif. Puis on manque de bâtiments iconiques aussi sur le campus. Donc il y aura un bâtiment iconique en plein cœur du campus. Le reste, effectivement, ce sera de la rénovation.
Un mot sur le financement, parce qu'on est déjà très en retard, donc je vous presse un petit peu sur le financement, et puis pour qu'on puisse un petit peu parler d'IA.
Ben vous avez le financement. HEC n'a pas de dette aujourd'hui, donc on va emprunter.
Sur fonds propres,
ouais. Donc on va emprunter une partie, on portera sans doute à peu près la moitié du coût. Et puis les levées de fonds auprès, comme on le fait d'habitude, auprès d'individus et d'entreprises, et peut-être un peu de fonds publics, on l'espère, pour soutenir une école qui, quand même, joue un rôle important en France.
C'est un projet à combien, en gros, le total ?
Je vais vous dire, mais c'est quelque part entre 200 et 250 millions d'euros en tout.
Et à quel horizon ?
Disons qu'on est en train aujourd'hui de choisir les architectes et les promoteurs, et que c'est un horizon 2030. C'est-à-dire qu'il y aura, a priori, 3-4 ans de travaux sur le campus.
Un mot sur l'IA, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les établissements d'enseignement supérieur. À HEC, vous avez décidé, dès 2020, je crois, 2021, vous alliez avec l'Institut Polytechnique de Paris, dans le cadre du centre de recherche High Paris, qui est financé, vous l'avez dit tout à l'heure, par l'État à hauteur de 70 millions d'euros. C'est un beau succès pour votre alliance. C'est quoi l'ambition avec ce centre, très rapidement, et au-delà de ses activités de recherche, quel bouleversement majeur pensez-vous que l'IA va entraîner pour des institutions comme HEC ?
Alors, une ambition très forte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre Paris, la France, sur la carte de l'IA. Vous avez des écosystèmes incroyables aux États-Unis, vous avez des écosystèmes incroyables en Asie. Il y a une vision sans doute européenne du sujet de l'IA qui peut être différent. En tout cas, elle a sa place. L'idée, c'est vraiment de mettre à la fois Paris et l'Europe sur la carte. Donc, c'est ça notre ambition. Et d'avoir un centre très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'à la fois sur les enjeux scientifiques, sur les enjeux économiques et sur les enjeux de société. Et ce triptyque-là, il est très important. On travaille à la fois des enjeux de cybersécurité et d'algorithmes, mais à la fois des enjeux de business et des enjeux d'éthique, de la data, etc. Après, le bouleversement de l'IA, il est partout. C'est-à-dire toutes les fonctions d'une entreprise, d'une organisation seront touchées par l'IA. Et le vrai sujet, c'est très intéressant, à la fois au niveau macro, c'est-à-dire que nous tous, citoyens, on a besoin de regarder ça avec attention. Puis au niveau micro, moi, du dirigeant que je suis, il y a des transformations au sein de l'institution. Le vrai défi, c'est est-ce que la seule obsession de l'IA, c'est l'automatisation demain ? Et cette vision de l'IA qui est c'est plus performant que l'humain, donc on va le remplacer. Parfois déceptif, hein. C'est-à-dire que les gains de productivité attendus de beaucoup d'innovations sont en général plus faibles que ce qu'on pensait pouvoir voir dans les données. Ou est-ce qu'au contraire, l'objectif, c'est de venir compléter, augmenter la capacité des hommes et des femmes à réaliser un certain nombre de choses. Et donc le défi, il est là. Le défi au niveau très micro, il est là. C'est-à-dire que moi, je vois bien à quel point il y a des tâches qui vont être transformées au sein de l'organisation que je pilote, mais au service d'une plus grande qualité et au service de nouvelles tâches qui vont être créées, de nouvelles fonctions qui vont être créées pour s'occuper à la fois de nos professeurs et de nos élèves. Au niveau plus macro, et donc ça, c'est vrai aujourd'hui au niveau macro, comme au niveau de toute la société. Okay, c'est le vrai défi, et politiquement, parce que c'est un vrai sujet aussi politique, dans quel sens on a envie de pousser. Mais l'autre partie, c'est aussi la question fondamentale. Qui contrôle la technologie ? Qui contrôle l'information ? Et ça, c'est un vrai sujet de société. Donc on voit bien à quel point la question de l'avenir de nos démocraties, enfin l'importance de la démocratie pour savoir où va l'IA et l'impact de l'IA sur nos démocraties est absolument fondamental. Donc l'objectif du centre, c'est aussi de travailler sur ces sujets-là. Et donc, voilà, des enjeux d'entreprise, des enjeux technologiques, aussi d'essayer de contribuer à faire en sorte que nos sociétés aillent vers une IA qui soit plus vers performance augmentée plutôt qu'un remplacement.
Et Loïc, on a explosé les compteurs de ce podcast, mais comme vous êtes assez rare dans les médias, on a laissé filer. Deux dernières questions. Une question qui est une question que Bernard Amanantou aime bien poser quand il est dans ce studio. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous empêche de dormir la nuit en ce moment ?
Oui, la fragmentation du monde. C'est-à-dire quand vous êtes habité par cette idée que, en faisant venir 135 nationalités sur le campus, on participe modestement. Okay, modestement. Mais à créer un tout petit peu plus de paix, parce que ces gens-là qui auront des fonctions importantes demain, s'ils sont des ambassadeurs de cette diversité, ils vont en être des promoteurs. Voilà. Et quand je vois les blocs, les fermetures et autres, ça m'empêche de dormir.
Dernière question, est-ce que vous auriez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs ?
Alors, vous m'avez interrogé sur l'IA et vous savez qu'on n'a pas parlé, mais je suis professeur d'économie, initialement, quand je suis arrivé sur le campus. Et donc, forcément, encore un appétit important. Il y a un penseur extrêmement intéressant qui s'appelle Daron Acemoglu, qui a eu le prix Nobel d'économie tout récemment, qui a des lectures qui peuvent être assez épaisses. Le bouquin peut être assez épais, mais qui sont passionnantes. Vous pouvez faire la version simplifiée au travers de podcasts. Il a sorti un livre récemment, assez épais, qui s'appelle, désolé, c'est parce que je crois qu'il est encore qu'en anglais, qui s'appelle Power and Progress. Et c'est toute la question que, voilà, on se pose un petit peu sur la question de l'IA et l'analyse des innovations technologiques au cours de, du temps, les peurs que ça a engendrées, les progrès que ça a pu engendrer. Et donc, voilà, qui contrôle et comment est-ce que ça s'est fait au service d'une prospérité partagée?
C'est votre livre de chevet?
Mais en tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire.
Merci beaucoup, Éluc Perrage, d'être venu nous voir au studio Module aujourd'hui. Merci, Jérôme. On se retrouve dès le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.